rébellion et dans ses micros. Alors, c'est le texte biblique dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, et nous allons lire les versets 1 à 14. Alors, il y a plusieurs études que je vais faire, si Dieu le permet, dans ce texte. Donc déjà, nous avons vu trois fois le même verset, mais je pense que c'était salutaire parce que plusieurs personnes m'ont dit qu'elles vraiment elles avaient été touchées donc mercredi dernier. Donc plusieurs personnes. Hein. Donc je me dis, il valait mieux faire trois fois qu'une seule fois parce que c'était le but. Eh bien, n'est pas simplement de prêcher ou de faire des études bibliques, mais le but c'est que nous grandissions, que nous allions plus loin. Que la parole de Dieu fasse son effet dans notre vie. Alors c'est là le plus important. Le reste, après, si on veut faire de l'homilétique, du discours et de toutes ces choses, eh bien, il ne faut pas venir dans une étude biblique et dans une église. Il y a des grands discoureurs de ce monde qui sont capables d'avoir beaucoup d'éloquence, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de bagou, hein, excusez-moi de le dire comme ça, mais on embrouille les gens avec des belles paroles. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est m'est arrivé quand j'étais à l'Institut biblique. Alors, on avait un professeur qui était très, très érudit. C'était un docteur en théologie. Il avait beaucoup de bagages. Il était très philosophe. Il faisait de la théologie. Alors, il faisait pas seulement de la théologie, mais c'était le point d'étude qui s'appelait théologie. Parce qu'il y a christologie, il y a sotériologie, c'est le salut, donc il y a pneumatologie, c'est le Saint-Esprit, mais théologie, c'est théologie. Alors quand il y a un théologien, c'est un terme général, mais théologie est un point particulier aussi. Et alors, lui, il était capable de parler comme un philosophe et un professeur d'université dans une chaire de philosophie. Alors, si bien que ma vie est perdue, hein. Mais voilà. Donc, il n'avait pas de mal. Je n'avais pas beaucoup de bagages intellectuels. Mais alors, il avait demandé un jour de faire un exposé à un étudiant sur les crues du Jourdain au moment où le peuple d'Israël était devant le pays de la promesse. Voilà. Alors, l'étudiant a fait son exposé et alors, j'ai entendu quelqu'un qui avait une harmonie dans ses discours. C'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Jamais j'avais entendu quelqu'un comme ça. Il nous a captivés. Hein. Alors, on pouvait ne rien comprendre à ce qu'il disait, mais le rythme oratoire et le choix des phrases, le choix des mots, etc., était, je vous dirais, envoûtant. Et alors, quand il a fini son exposé, il y a eu un silence complet. Même le professeur, qui était pourtant un érudit, il est resté la bouche comme ça. Il a mis du temps à reprendre ses esprits. Et là, je me suis dit, voilà, ça c'est quelqu'un qui est capable de captiver des gens simplement en racontant les crues du Jourdain, hein. Il n'y avait rien de spirituel. Rien de spirituel, c'était les crues du Jourdain. Il n'a fait aucune... Il n'y avait pas le Saint-Esprit, il n'y avait pas de leçon spirituelle, c'était juste les crues du Jourdain, c'est tout. Et je me suis dit, ça c'est quelqu'un qui est capable d'embobiner les gens. Il a une capacité oratoire hors du commun. C'est le rythme des mots et des phrases, et le son de la voix... Et là, les Grecs avaient la supériorité du langage. C'était, si vous lisez un Démosthène, alors je vous le conseille peut-être pas, c'est les Philippiques ou de la Couronne, la prévarication de l'ambassade, j'ai lu tout ça. Et alors, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. D'un point de vue technique, c'est extraordinaire. Et un jour, le plus grand ennemi de Démosthène, une fois que Démosthène était mort, il enseignait l'art oratoire. Et quand il enseignait l'art oratoire, il utilisait les discours de son ennemi pour enseigner l'art oratoire, bien entendu, parce qu'il n'est jamais arrivé à la hauteur. C'était Échine. Il est à la hauteur de cet homme. Et alors, il disait, vous vous rendez compte à quel point cet homme était si grand est si extraordinaire. Et puis il dit, mais, vous n'avez pas entendu le monstre. Vous n'avez pas entendu le monstre. C'est quelque chose, vous savez, c'est ces gens qui sont capables de captiver avec des phrases, avec des mots, avec un rythme. C'est tout. Rien d'autre. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas de puissance, il n'y a rien. Simplement l'assemblage des mots. C'est pour cela que nous sommes dans une église et nous enseignons la parole de Dieu et nous croyons en l'enseignement de la parole de Dieu. Nous croyons en la puissance du Saint-Esprit, au-delà des mots, au-delà des expressions. Dieu est capable de sauver une âme et de parler au cœur avec les paroles d'un enfant qui n'a aucune malice et aucune capacité à faire valoir des arguments, mais qui est capable de dire les choses comme le Saint-Esprit est capable de dire et de parler au cœur et de convaincre une âme. Et je peux vous dire combien d'enfants ont été les évangélistes de leur famille et ont amené leur famille au salut, simplement par leur témoignage en disant Jésus m'a sauvé, j'étais perdu, maintenant je suis sauvé. Voilà. Donc nous allons prendre notre texte au chapitre 14 de l'évangile de Jean. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je ne ferai pas qu'une seule étude sur ce texte, cette fois-ci, parce qu'il y a plusieurs enseignements très, très précieux et très grands. Il y en a au moins trois. Donc, je prendrai chacun des trois, si Dieu le permet, l'un après l'autre. Mais nous allons voir, donc nous avons déjà vu ce verset, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, on passe au verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures. Alors, cette histoire de demeure a fait écrire beaucoup de livres. Beaucoup de gens ont parlé sur les demeures. Et qu'est-ce que c'est que ces demeures? Et comment allons-nous habiter dans le ciel? Et alors, comme dit quelqu'un disait, depuis le temps que le Seigneur Jésus est parti, les demeures doivent être somptueuses. Elles doivent être vastes. Et bon. Alors, je laisse les personnes débattre sur la question des demeures, leur superficie, le prix au mètre carré, la hauteur des plafonds et toutes ces choses, si c'est meublé ou si c'est pas meublé, s'il y a ceci ou cela. Bon, j'ai un peu d'ironie pour ces choses parce que nous sommes comment dire, nous allons aller dans un monde spirituel et nous parlons en termes matériels. Nous sommes liés à l'espace et au temps. C'est-à-dire que vous raisonnez à partir d'un lieu comme celui-ci, avec des colonnes, des murs, des plafonds, des choses comme cela, mais tout ça c'est matériel, c'est la matière, c'est lié à l'espace et au temps. Tandis que quand on rentre dans l'éternité, on n'a plus d'espace, on n'a plus de temps. Alors il est commun de dire que nous serons dans le présent perpétuel. Ce n'est pas vrai non plus. Parce que, ça c'est philosophique, hein, excusez-moi de le faire un petit peu, mais vous avez le passé et vous avez le futur. Et entre le passé et le futur, il y a une frontière d'une épaisseur infinitésimale qui est sans épaisseur, hein. C'est la frontière entre les deux, ça s'appelle le présent. Voilà. Mais le présent existe dans le temps et dans la matière. Quand on est dans le domaine spirituel, il n'est même plus question de présent. C'est une notion de temps qui a lieu que parce que Dieu a fixé les temps et les lieux quand il a créé le monde. Parce que le monde existe, parce que la matière existe, le temps existe aussi. C'est lié ensemble. Mais dès que nous passons dans l'éternité, nous ne sommes plus ni dans le futur, ni dans le passé, ni dans le présent. C'est une autre notion que nous ne pouvons même pas imaginer. Nous ne savons pas ce que c'est. Alors il faut rester très modeste dans ce que nous disons sur ces demeures dans le ciel. Alors, quand la parole de Dieu nous parle de l'éternité, il en est question avec des notions de temps. Parce que nous ne pourrions pas comprendre ce que Dieu nous dit s'il n'y avait pas des références au temps et à l'espace. C'est comme quand vous avez la main de Dieu. Dieu n'a pas de main. Il est esprit. Nous sommes sous le regard de Dieu. Et même il est parlé de mets-moi sous ton aile. Dieu n'est pas un oiseau. Ce sont des références à des choses que nous connaissons pour que nous comprenions mieux. Alors, nous disons, évidemment, Dieu n'a pas d'aile, mais Dieu me prend sous sa protection comme un oiseau qui prend sous sa protection ses petits, sous ses ailes, comme une poule, hein. Les poules sont des animaux très maternels, hein. Vous pouvez ne pas aimer les poules, ça a l'air d'être un animal totalement stupide, mais je peux vous dire que c'est un animal qui a énormément d'affection. J'en ai eu un jour la preuve. J'ai sauvé une poule d'un coq qui l'a martyrisée. Voilà. Alors j'ai chassé le coq, parce que vous savez, je suis quand même. J'aime bien me singulariser un petit peu. Je défends les poules et contre les coqs. J'ai sauvé une poule. C'est une poule naine. Oh, qu'elle était mignonne, ces petites poules. Elles sont intelligentes en plus. Et je l'ai prise dans mes bras et elle a posé sa petite tête contre ma poitrine. Avec une affection, une reconnaissance. Oh, je dis là, ça m'a fait fondre. Hein. Je croyais que vraiment ces petites poules, ça valait pas grand-chose, c'est juste de la viande. Mais non, mais non, mais non. Vous mangez de la poule, ou du poulet, c'est dommage parce que c'est des animaux très attachants. Donc, quand il est question que Dieu nous prend sous ses ailes, sous sa protection divine, vous pensez à ces animaux qui sont loin d'être stupides et qui ont de l'affection. Une réelle affection. Et moi, quand j'ai fait cette expérience, je peux vous dire que j'étais repris en moi-même, hein, parce que je méprisais carrément ces animaux-là. Je me dis, c'est de la viande. Mais non, 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 non. C'est la plus bête manière de faire avec ces animaux. Sont capables d'être très maternels. Je me rappelle de cette histoire. C'était aux États-Unis. Il y avait une ferme qui avait brûlé. Et alors, le fermier, après l'incendie, passé dans la cour de la ferme, et il y avait une carcasse brûlée au milieu de la cour, et il a reconnu que c'était une poule. Et il a donné un coup de pied dans la carcasse, et tous les poussins se sont sauvés. Cette poule, pour vous dire l'affection, avait gardé tous ses poussins sous ses ailes jusqu'à la mort. Elle était carbonisée, mais les poussins étaient vivants, hein. Ils avaient passé au travers du feu. Hein. Ça, c'est notre Dieu, qui est le grand Dieu, qui nous aime d'un amour éternel, qui nous prend sous ses ailes. Voilà. Donc, il y a des expressions comme cela pour nous faire comprendre des choses qui sont difficiles à comprendre. Alors, quand le Seigneur Jésus dit il y a plusieurs demeures dans le ciel, il faut faire bien attention que nous ne sommes plus dans le temps, nous ne sommes plus dans l'espace, nous sommes dans l'éternité. Il y a autre chose. Et alors, qu'est-ce que sont ces demeures? En tout cas, c'est un lieu, eh bien, où il sera bon d'habiter, où nous serons bien accueillis, où nous serons heureux d'être. Les demeures, C'est l'endroit où nous habiterons. Voilà. Nous serons dans la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que la présence de Dieu? Voilà, nous serons avec Dieu. Voilà. C'est un jour, je m'étais posé beaucoup, souvent la question sur toutes ces choses, et je me rends compte que, quoique la parole de Dieu emploie des images, eh bien, on n'arrive pas à comprendre tout à fait ce que Dieu voudrait nous dire et nous enseigner par tout ça. Alors, je me posais beaucoup de questions, mais je me disais, tu n'auras pas de réponse, hein. Et puis, un jour, c'est dans une prédication. J'avais parlé sur ces choses et ça, le Seigneur me l'a montré. Il m'a dit, mais c'est quelque chose que c'est tellement grand qu'il n'y a pas de mots humains pour l'expliquer. Il n'y a pas de mots humains. Les mots humains, ceux qui sont employés comme demeure, eh bien, c'est le plus proche que l'on puisse dire pour ce qui est dans le ciel et là où nous serons. Mais dites-vous bien que c'est infiniment plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Parce que, et nous ne pouvons pas, nous sommes humains. Nos limites sont tellement grandes ou tellement petites que nous ne pouvons pas comprendre toutes ces choses. Alors, nous devons rester dans l'humilité et savoir que ce sera beaucoup plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Et toutes les définitions et tout ce que l'on peut dire et tout ce que l'on peut discourir sur les demeures qui sont dans le ciel, eh bien, sont au-dessous de la vérité. Même si nous avions les plus grandes expressions, même si nous avions des mots nouveaux pour exprimer toutes ces choses, nous sommes limités et nous ne pouvons pas dire ce que c'est réellement. C'est bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Quand le monde parle du ciel, il dit, mais on va s'ennuyer dans le ciel. Parce que, voilà, on va jouer de la harpe tout le temps devant Dieu. Voilà. Ça, c'est il y a une belle chorale. Ça, c'est en général ce que l'on va dire. Voilà. Et ceux qui aiment la musique, eh bien, ils seront bien à l'aise à cet endroit-là. Mais pour ceux qui l'aiment moins, ben, ça sera un peu plus difficile pour eux. Mais je ne peux pas imaginer que nous serons inactifs et que dans le ciel, eh bien, il n'y ait pas des activités qui dépassent tout ce que vous pouvez imaginer. Et jouer de la harpe dans le ciel, excusez-moi, ça c'est encore une image de ce monde. C'est limité à l'espace et au temps. Nous ne pouvons même pas imaginer. C'est notre Dieu, c'est le Créateur. Il n'a pas fini de créer. Il n'a pas fini de faire des choses qui nous dépassent. On lit la Bible et on voit d'une éternité à une éternité. Mais ce qui est dans les éternités avant et après, qu'est-ce que c'était? Dieu est de toute éternité. Il est de toujours. Il a toujours été créateur. Alors, quand nous serons dans l'éternité, quand nous serons dans ces demeures célestes, eh bien, nous serons avec le Créateur. Et il saura créer de nouvelles choses, et des choses qui ne peuvent même pas être imaginées. Il y a plusieurs théories pour notre monde, notre univers. Une des théories, c'est que notre univers est à côté d'autres univers. Alors bon, je vais faire un petit peu aller un peu loin, mais si ma mémoire est bonne, c'est 13,8 milliards d'années-lumière la distance jusqu'aux confins de l'univers. Depuis la Terre jusqu'au le plus loin possible, c'est 13 milliards, 8 ou 2, je ne m'en rappelle plus, d'années-lumière. Alors, d'années-lumière, c'est la vitesse de la lumière, hein. Ça représente des milliards, de milliards, de milliards de kilomètres. Et alors, c'est quelque chose de phénoménal. Mais ils disent qu'il y a d'autres mondes qui sont juxtaposés, c'est une théorie, hein. Mais l'article que j'ai lu dit que, obligatoirement, nous ne pouvons pas avoir de l'autre côté une appréciation nette de ce que cela peut être, parce que toute la physique, toutes les mathématiques dans l'autre univers ne peuvent pas être les mêmes. Nous savons que 1 et 1, ça fait 2, mais de l'autre côté, ça fait peut-être pas forcément 2. Voilà. Donc, on ne peut pas imaginer. Alors, on pense que quand il s'agit de matière, et de temps aussi. Et le temps risque de ne pas être le même. Mais dans des lieux, on n'est pas dans le monde spirituel, on est dans un monde matériel au-delà de notre univers. Mais donc imaginez ce que c'est que d'être dans le monde spirituel, dans l'éternité. Si nous n'avons pas, nous ne pouvons pas imaginer ce que c'est un autre univers qui est juste à côté du nôtre, bon, juste à côté, c'est pas un voisin immédiat quand même, hein. Mais si nous ne pouvons pas imaginer ces choses, alors comment pouvons-nous imaginer l'éternité, la présence de Dieu? Alors la présence de Dieu, ça englobe beaucoup de choses. Les demeures qui sont dans la présence de Dieu, dans l'éternité. Voilà, je vais vous préparer une place. Ce n'est pas possible de l'expliquer, ce n'est pas possible de l'imaginer, mais je peux vous dire, c'est beaucoup plus grand que ce que vous imaginez, et vous ne vous ennuierez pas. Et nous ne nous ennuierons pas, hein, parce que je suis inclus dedans. C'est comme ça. Notre Dieu a fait les choses plus grandes et plus parfaites que ce que l'on peut imaginer. Quand on regarde l'univers, quand on regarde les mécanismes célestes, quand on voit les milliards d'étoiles, j'ai lu, bon, cet après-midi, donc ma mémoire est encore bien. Il y a 170 milliards minimum dans notre galaxie d'étoiles. 170 milliards. C'est le minimum, hein? Ça, on est sûr. Après, probablement plus. Mais 170 milliards, est-ce qu'il y a eu 170 milliards d'êtres humains sur la Terre depuis la création? Non. Non. Même pas 50 milliards. Nous sommes au maximum de ce que la Terre a produit comme être humain jusqu'à présent. Voilà. C'est quelque chose de... Nous sommes entre 8 et 9 milliards maintenant, si ma mémoire est bonne. Mais c'est le maximum. Nous n'avons jamais eu autant de populations vivantes en même temps sur la Terre. Tout ça nous montre un créateur si grand, qu'il dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Lui connaît le nombre des étoiles. Et si nous posons des questions sur ces choses-là, il connaît le nombre, il connaît leur poids, il connaît leur vie, il connaît leur commencement, il connaît leur fin, il connaît toutes ces choses. Bien au-delà de toutes les connaissances humaines, nous pouvons avoir des connaissances et des ordinateurs qui font des calculs phénoménaux. Mais notre Dieu, tout cela, c'est même pas... Il le pense et ça existe, et il le fait. Tout ça est venu de notre Dieu, de notre Créateur. Nous voyons le monde immédiat, et déjà il est beau, il nous émerveille, mais qu'est-ce qu'il y a au-delà ? Alors quand on parle de l'éternité, je peux vous dire, soyons modestes dans les données matérielles et temporelles, mais quand il s'agit de l'éternité, soyons-le encore plus, parce que cela nous dépasse à un tel point que nous ne pouvons pas savoir à quel point nous sommes ignorants et nous ne pouvons pas comprendre. Alors le Seigneur Jésus, eh bien, le Dieu Tout-Puissant, nous a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Voilà. Il y a un endroit où nous serons. Nous serons présents. Voilà. Dans la présence de Dieu, nous serons là. Qu'est-ce que c'est que ces demeures? Ne divaguons pas, ne rêvons pas, mais soyons toujours dans l'adoration et la gloire de Dieu pour tout ce qu'il va faire. Parce que ce qu'il va faire, se dépassera tout ce que nous pouvons imaginer et nous comblera comme vous ne pouvez pas le penser. Nous serons au-delà de toute imagination humaine, de toute expression humaine. Tout le reste ne s'explique pas avec des mots et avec des sentiments ou avec des regards. C'est beaucoup plus que tout cela. Donc ça, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu qui est le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel. Donc restons avec nos petites demeures là. Et il est dit, hein, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Voilà. Nous savons que nous avons un Père. Le Dieu Tout-Puissant, ce grand Dieu, ce Dieu Tout-Puissant, éternel, qui a fait toutes choses, nous l'appelons notre Père. Il dépasse les définitions humaines. Quand vous avez on parlait de théologie, quand la théologie définit, Alors, quand il y a des définitions de Dieu ou des définitions de la Trinité, je peux vous dire une chose, elles sont forcément limitées et elles sont remplies d'obscurité. Alors, déjà, l'obscurité, parce que le vocabulaire n'est pas le vocabulaire de tout le monde, c'est le vocabulaire théologique et philosophique. Donc, ce n'est pas un vocabulaire qui est accessible à tout le monde. Il faut déjà avoir fait des études pour connaître les définitions de tous ces mots. Mais rien que comprendre les phrases ne suffit pas. Il y a au-delà de la compréhension intellectuelle, notre Dieu est beaucoup plus que tout cela. Dieu ne se définit pas dans une formule humaine. Ce n'est pas un théorème de géométrie. C'est Dieu, c'est le grand Dieu. C'est le Dieu tout-puissant. Un jour, je méditais sur tout ça, et puis j'ai eu comme un flash. Je peux vous dire, ça m'a saisi. Et je me suis dit, mais Dieu, il a révélé ce que nous avions besoin de connaître de lui, et encore, dans les limites humaines. Mais il y a comment dire, des attributs, hein, c'est comme cela qu'on dit, Dieu est amour, c'est un des attributs de Dieu. Eh bien, il nous a révélé son amour, sa justice, sa patience, sa bonté, sa fidélité, etc. Il y en a une dizaine, mais je suis persuadé qu'il y en a beaucoup plus que ça, et qui ne peuvent pas être dans les compris par des humains, parce que cela ne nous concerne pas. Nous, nous sommes limités dans nos sentiments, dans nos pensées, dans notre manière d'agir, de faire et tout cela. Mais Dieu, eh bien, il est au-dessus de tout ça. Il ne nous a révélé que ce que nous pouvions comprendre. Ce que nous ne pouvions pas comprendre, il ne nous l'a pas dit. Parce que ça ne nous concerne pas. Nous sommes trop limités. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a humilié. Hein. Je suis descendu et je me suis dit, mais mon Dieu est tellement grand, tellement grand, tellement grand. Nous, nous parlons avec des milliards, mais milliards. Savez-vous combien de milliards vous pouvez compter dans votre vie? Pas un. Alors ne commencez pas. Je ne pense pas avoir 1 million, 1 milliard de secondes depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas 1 milliard de secondes. C'est depuis Jésus-Christ jusqu'à nous, il n'y a pas 1 milliard de minutes. Depuis le commencement de la création jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas 1 milliard d'heures. Quand on parle de milliards, mais ce sont des notions humaines. Vous avez un disque dur avec des téra et des milliards d'octets, il y a même parfois plusieurs dizaines de milliards que vous ne pouvez pas compter. Mais ça, ce sont des que vous ne pouvez pas compter, et c'est dans des limites humaines. Et Dieu dépasse tout cela infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer ou penser. Il est plus grand que tout ça. Donc, je reviens à mes demeures dans la maison de mon père. Alors, c'est de pouvoir dire mon père qui est le grand Dieu, qui est ce Dieu tout-puissant, c'est mon père, qui prend soin de moi, qui a pris soin de moi depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, qui m'a sauvé et qui m'a lavé de mes péchés, qui m'a réconcilié avec lui, qui m'a tant aimé qu'il a donné son fils unique, mon père. Et je peux vous dire, c'est avec assurance que nous pouvons lire ces versets et dire, dans la demeure du Père, j'ai une place. J'ai une place à moi. Une place que Dieu m'a réservée. C'est parce qu'il est question des demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. C'est-à-dire une place, un endroit qui est à moi. Un endroit qui a mon nom. Un endroit qui a mon identité, un endroit où je suis bienvenu, c'est où je ne serai pas un étranger, c'est une place. Par exemple, voilà, vous travaillez, vous êtes dans une entreprise, vous avez votre place. C'est comme ça que l'on dit. Et je vais vous préparer une place. Alors, quand tout à l'heure on parlait de demeure, mais préparer une place. Ce n'est pas seulement une demeure, c'est un endroit où on est, où on existe, où on a des possibilités, où on va faire quelque chose. C'est un endroit où on est bienvenu. C'est un endroit qui porte notre nom. C'est cela, avoir une place. J'ai une place dans le ciel. J'ai une place dans la présence de Dieu. C'est quand nous serons dans l'éternité, alors nous aurons des activités. Voilà, c'est comme dans une entreprise, on ne vous embauche pas pour rien faire. Hein. C'est, vous avez comment dire, une activité et elle est définie. Je ne sais pas comment on dit, mais je crois que c'est un cahier des charges. Il y a, vous avez un contrat, il a des limites et on ne peut pas vous demander ce qui est en dehors de votre contrat. Par exemple, si vous avez, comment dire, vous êtes secrétaire, on ne peut pas vous demander d'aller passer la serpillière. C'est bon. À l'occasion, on peut vous dire, bon ben écoute, tu ne peux pas parce que la femme de ménage est malade. Est-ce que tu ne pourrais pas? Bon, on peut faire un effort, mais il ne faut pas que ça se répète parce que ce n'est plus dans votre contrat. Donc, quand nous serons dans le ciel, eh bien, nous aurons des activités qui seront les nôtres. C'est, nous ne nous ennuierons pas, mais je ne peux pas imaginer, alors je vais employer un mot, hein, une seconde, mais il n'y aura pas de seconde. Voilà, ce sera autre chose. Mais ce sera merveilleux, vous savez. Quand les gens parlent de l'éternité et du ciel, il y a beaucoup de moqueurs. Beaucoup de gens qui en parlent avec légèreté et avec ironie. Quand vous les entendez des blagues, hein, oui, alors il est au ciel, il y a Saint-Pierre, et il va ouvrir la porte, il va poser des questions. Alors oubliez tout ça, hein. Déjà, je pense que vous avez compris que c'était des blagues, mais il y a des religions où Saint-Pierre a une très grande importance. Hein. Et puis, il y a des anges qui gardent l'enfer, il y a ceci, il y a ça. Mais oubliez toute cette théologie, c'est la théologie de bande dessinée. Ça n'a pas de consistance. Les choses sont beaucoup plus grandes que cela. Notre Dieu, c'est le grand Dieu, le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui est capable de nous émerveiller. Pas de nous étonner, hein. Je vais faire une petite leçon là. Si vous êtes étonné, c'est l'incrédulité. Si vous êtes émerveillé, c'est la foi. Voilà. Si vous avez des points d'interrogation dans vos yeux, vous avez des doutes. Mais si vous avez des soleils dans vos yeux, c'est que vous y croyez. Vous dites, Seigneur, combien tu es merveilleux, combien tu es grand. Combien tu as dépassé tout ce que je pouvais imaginer, tout ce que j'ai pu dire, tout ce que j'ai pu entendre. Tout cela était au-delà de tout ce que l'on pouvait imaginer. Et quand nous regardons cette terre, vous avez de belles photos, hein, que vous pouvez voir parfois sur Internet. Vous avez des paysages magnifiques. On se dit, mais je ne verrai jamais ces choses-là dans la réalité. Alors, on a un privilège immense, c'est de pouvoir les voir sur un petit écran. Et vous dites que c'est beau. Comme j'aimerais bien avoir ma terrasse qui domine cette point de vue sur la mer avec la côte là qui est rocheuse, hein, je vous fais rêver là. C'est avec les cocotiers, les bananiers, je ne sais pas si vous avez, ou certains c'est de la glace, comme vous voudrez, selon vos choix. Ça peut vous émerveiller, mais la place que Dieu a pourvue, c'est bien plus que ça. Déjà, cette terre remplie, nos yeux d'émerveillement. C'est par exemple l'île de Formose. Quand les Portugais sont arrivés devant cette île, ils l'ont appelée Formose. Alors maintenant, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Mais c'est quelque chose, c'est magnifique, c'est merveilleux. C'est au-delà de tout ce que l'homme peut. C'est le paradis. Voilà, on parle d'île paradisiaque. Les îles paradisiaques, il ne faut pas que l'homme y vienne parce que ça devient vite l'enfer. Mais c'est comme ça. Mais quand vous êtes dans ces paysages immenses, vous dites, oh là là, que c'est grand, que c'est beau, que ça me dépasse. Vous voyez un coucher de soleil, vous voyez des montagnes, vous voyez les couleurs qui changent, vous voyez des animaux, vous voyez un félin qui est dans la savane, vous voyez des chevaux qui courent, vous voyez toutes ces choses, vous dites, oh quelle merveille, quelle merveille. C'est Dieu qui a fait tout ça, mais c'est limité dans le temps et dans l'espace. C'est que l'éternité, c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus merveilleux que ça. Ça, c'est limité. Il y a des limites très étroites même. même si ça nous émerveille, même si ça nous montre la grandeur de Dieu, eh bien tout cela est quand même limité, très limité même. Donc le Seigneur Jésus nous a fait une promesse, je vais vous préparer une place. Voilà. Et c'est un sujet de louange, vous savez. Vous pouvez rendre grâce à Dieu pour la place qui vous est réservée au ciel, parce qu'un jour vous y serez. Alors bien sûr, nous disons « oh là, le plus tard possible hein. ». C'est humain, mais on n'a pas envie d'y aller tout de suite. Voilà. Plus tard, voilà, j'aimerais bien, comme un fruit mûr qui tombe, eh bien, terminer ma vie. J'aimerais pas être secoué par un vent et tomber vert. Je voudrais tomber mûr. Voilà. Mais que ce soit tôt, que ce soit tard, nous pouvons déjà rendre grâce à Dieu, parce que ce sera merveilleux. C'est le Seigneur Jésus nous a fait la promesse qu'il va nous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Vous voyez l'amour du Fils qui dit « Je m'en vais, je vais vous préparer une place. Et quand la place sera prête, alors je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et nous serons toujours avec lui. Toujours dans sa présence. » Je peux vous dire une chose. C'est le Seigneur Jésus, déjà dans cette vie, peut devenir si précieux, si proche.